Europe 1, 22h30, 1h, la Libre Antenne. Olivier Delacroix.
Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée et que vous êtes confortablement installés chez vous pour écouter votre libre antenne sur Europe 1, sur votre radio. Cette libre antenne qui vous accompagnera ce soir encore jusqu'à 1h du matin. Alors si vous avez envie de nous parler de vous, d'une situation qui... à laquelle vous pensez, qui peut provoquer certaines réflexions et certaines interrogations. N'hésitez pas à venir nous en parler. Vous pouvez laisser votre message sur le 3921 et Natacha, Florian, Jean-François vous rappelleront dans les meilleurs délais. Voilà, moi je suis comme d'habitude ravi de vous retrouver pour cette libre antenne et puis nous allons commencer. Qu'en dites-vous ? C'est parti.
Venez vous confier à Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Pierre au 3921. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir, comment allez-vous ?
Bien, très bien, je vous remercie.
Bon. Alors, dites-moi ce qui vous amène.
Alors, j'ai voulu rebondir sur le fait que vous vouliez écrire un livre sur le syndrome de l'imposteur.
Oui.
Donc, comme je l'ai communiqué à vos équipes, je le vis aussi. Je pensais que c'était réservé à une certaine caste de l'humain, et je m'aperçois finalement beaucoup de gens le vivent.
Qu'est-ce qui vous faisait penser que c'était réservé qu'à une certaine partie des humains ?
Parce que c'est quand même pas commun, voilà, cette espèce de syndrome. Logiquement, l'humain moyen fait une tâche et ne se sent pas dans cette posture d'imposteur, justement. Et que pour en avoir parlé avec pas mal de gens, qui font partie des 3% testés au-dessus de 130, c'est quelque chose qui revient régulièrement.
Et vous vous êtes aperçu que finalement, ça touchait tout type de personnes.
Ouais. Voilà, complètement. Et si je pouvais amener un éclairage sur ça, et peut-être une prise de conscience chez certains, en tout cas, voilà. Je suis là pour aider les gens, finalement, je voulais en témoigner.
Eh ben écoutez, avec plaisir, je vous écoute, parce que vous vivez cela depuis l'enfance ?
Ouais, depuis... j'ai pris conscience de mon décalage depuis les années collège, on va dire 12-13 ans, et je me suis un peu froissé avec l'institution, l'éducation nationale, et il se trouve que maintenant, j'essaye peut-être quelque part de me reconfronter à cette institution en y travaillant.
D'accord, vous êtes professeur ?
Ouais, je suis enseignant, je cumule pas mal de boulot, donc je suis prof en conservatoire,
ouais.
Là je suis prof à l'éducation nationale, je suis non titulaire, parce qu'on ne peut pas être titulaire sur deux corps d'état différents. Je suis aussi en CDD dans un lycée, sur une option particulière, et je suis auto-entrepreneur, voilà.
Vous êtes auto-entrepreneur en quoi en fait ?
Sur la production de spectacles scolaires dans des établissements où je ne travaille pas.
D'accord.
Et je me retrouve finalement dans prof, donc éducation nationale, sans aucun diplôme, puisque je suis décrocheur.
Alors décrocheur, est-ce que vous pouvez préciser, pour ceux qui nous écoutent, ce que ça veut dire ?
Alors j'ai été décrocheur, alors là ça nous ramène au début des années 90, je suis allé dans le bureau du censeur du lycée à laquelle j'étais inscrit pour lui remettre ma lettre de démission parce que je me consacrais uniquement à mes études musicales. J'étais en B à l'époque, économie machin, et ça, il fallait que je me consacre à mes études musicales, donc il a fallu que je coupe le contrat avec l'éducation nationale, voilà. Donc je suis sorti du système sans diplôme.
D'accord. Et donc, en fait, vous avez obtenu ce poste comment, en fait ? Parce que j'ai du mal à saisir.
Bah, c'est-à-dire qu'ils cherchent à du monde. Je suis sur un poste de remplacement. Je suis prof au conservatoire.
D'accord.
Donc, ils ont dit oui. Parce que sur l'autre versant, j'avais ce qu'il fallait pour être prof. Voilà.
D'accord, d'accord.
Donc, j'ai toujours un statut de remplaçant, alors privilégié, parce que je suis en CDI.
Oui.
Voilà. Ce qui n'induit pas grand-chose en termes de sécurité ni de rémunération. Mais en tout cas, j'ai poussé une porte et elles sont toutes ouvertes.
Donc, ce qui est plutôt une situation qui est pour le moins agréable, en tout cas confortable.
Oui, parce que j'ai pu développer des choses et des idées qui me tenaient à cœur, mais je n'ai toujours pas résolu finalement mon problème avec l'institution.
En fait, votre problème avec l'institution, c'est une vue qui diffère de cette institution ?
Ouais, c'est une vue différente, divergente. Et en même temps, vous m'entendez cette espèce de syndrome de l'imposteur-là, mais il n'est pas dissociable d'autres syndromes, comme celui de Cassandre, comme celui de l'Albatros, comme beaucoup. Et finalement, je me retrouve dans une espèce de tout où j'ai... Ouais, ça fait plus de 10 ans que je fais tout ça. Et finalement, je ne me sens toujours pas, même si je suis accepté, je fais de la formation pour mes collègues, etc. Mais même si je suis accepté en tant que membre de l'institution,
oui,
j'ai toujours ce sérieux souci avec cette institution, finalement.
En fait, si je comprends bien, c'est que par rapport à vos collègues, vous n'avez pas suivi le même cursus, en tout cas le même chemin. Mais aujourd'hui, vous êtes leur égal devant l'institution, mais visiblement, ce syndrome de l'imposteur, en fait, c'est dans le regard de ces personnes-là que vous le vivez déjà.
C'est pas tant dans le regard des autres que de mon propre regard sur moi-même.
Oui, aussi, bien évidemment, puisque ça part de ce syndrome, il part souvent de l'interprétation. De notre interprétation que l'on peut faire d'une attitude en face de nous qui parfois n'a rien à voir justement avec ça, mais que nous interprétons comme ça. Alors, je vous écoute, dans quel type de situation vous vivez ce syndrome avant que peut-être vous nous expliquiez ensuite comment vous essayez de le combattre et comment vous essayez de vous en extirper. Mais tout d'abord, dans quel autre type de situation vous le vivez?
Ce syndrome-là, je le vis aussi dans une situation personnelle.
Oui.
Qui est compliquée, on va dire. Voilà, avec beaucoup de judiciaire, beaucoup de. Il y a la protection de l'enfance, il y a beaucoup de choses. Et la seule validation que j'ai eue pour l'instant de la projection de mes pensées ont été validées par l'institution judiciaire.
Alors, c'est-à-dire, expliquez-moi.
C'est-à-dire que j'ai réussi à faire protéger ma fille, voilà, de 6 ans.
D'accord.
Et je vous ai connu en interview, j'ai pris connaissance de vous en interview avec un monsieur qui s'était pris 35 coups de couteau, je crois, par son ex qui avait l'interdiction de voir sa fille. Voilà. Si vous remettez ce contexte-là.
Oui, je le remets complètement.
Voilà.
Il s'agit d'un monsieur été agressé par... le nouveau compagnon de son ex.
Le compagnon de l'ex, ouais, complètement, voilà. Et qui en plus
s'appelle
se retrouvait complètement démuni face à une institution. Donc voilà, finalement c'est la seule validation de la projection de mes pensées, parce que ça va très vite pour moi. C'est-à-dire que je peux, comme j'ai transmis, je peux rentrer en séance devant son prof sans avoir rien préparé du tout. Et vous parlez de neurosciences. Je développe un argumentaire, je développe une structure, je développe une séance, des ateliers avec mes pairs, mais j'ai rien préparé en fait. Donc c'est mon regard de moi vis-à-vis de moi-même, à un moment où je me dis mais t'es qui en fait là ? Même si en face ça prend, ça mange, ça argumente et ça prend et puis ça développe, mais je suis qui là-dedans en fait ? Qu'est-ce que je fais là finalement ?
Et alors justement ce questionnement que vous avez, qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi je suis là ? Pourquoi vous posez ce type de questions ? Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Face à En opposant quoi? Est-ce que vous y opposez d'autres collaborateurs ou d'autres collègues qui seraient mieux à votre place? Parce que ce syndrome-là, il est aussi toujours accompagné d'un... Enfin, souvent accompagné en tout cas d'éléments de comparaison par rapport à des références.
Oui, parce que de toute façon, j'ai affaire à des gens qui prônent le système, le parcours, et qui sont en face de moi, et moi, je n'ai pas ce parcours, et ce système, je l'ai quitté. Et après, ça, pourquoi je me pose ce genre de questions? Parce que c'est un moment, je me dis, bon, d'accord, ça prend, ça mange, ça absorbe, tout ça, mais qu'est-ce que je transmets, finalement? Qu'est-ce que je transmets à des gens qui sont du sérail en face de moi qui ne l'est pas?
Oui, mais bon, alors, si vous vous posez ce type de questions, là, pour le coup, visiblement, c'est vraiment un produit vraiment de votre pensée, de votre cerveau. Parce que je suppose que si vous vous retrouvez là à enseigner à d'autres personnes qui écoutent ce que vous dites, et puis si vous êtes en face d'eux, si on vous a mis là, c'est bien parce que dans d'autres sphères, on a pensé que votre place, elle était bien là. Justement, cette manière donc de vous interroger en permanence, comment est-ce que vous y remédiez aujourd'hui? Réfléchissez à ma question, on va marquer une petite pause et puis on se reparle tout de suite.
D'accord.
À tout de suite.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec Pierre, c'est votre libre antenne qui vous accompagne jusqu'à 1h du matin. Nous évoquons avec Pierre ce soir le syndrome de l'imposteur que nous avions évoqué avec une jeune femme qui nous appelait de Los Angeles d'ailleurs à l'époque et qui nous contait combien sa carrière avait été brillante elle était arrivée à ce qu'elle désirait, reconnue par ses pairs. Et malgré cela, elle nous expliquait qu'elle avait du mal à croire à tout ce qui lui arrivait et finalement à penser que tout ça n'était qu'un pur hasard et que bientôt elle serait démasquée. C'est un peu la même situation que vous vivez, Pierre, parce que vous nous expliquez être là à enseigner devant des personnes qui sont vos futurs collaborateurs ou certains peut-être déjà des collaborateurs et en tout cas des collègues. Et pourtant, vous vous posez cette question-là. Alors justement, on évoquait que c'était un pur produit de votre cerveau, de vos pensées. Comment est-ce que vous faites pour lutter contre ça? Parce qu'il faut bien continuer à avancer, il faut bien continuer à donner ses cours. Comment est-ce que vous faites?
Je suis plutôt dans une stratégie de fuite. C'est-à-dire que globalement, je suis mes collègues. J'ai très peu d'interactions avec eux dans le cadre du boulot ordinaire. Et j'en ai dans le cadre de formation interne. Voilà. Et parce que je suis certainement à ce moment-là à une position dominante où j'insuffle, je donne des trucs, des choses, et que quand je suis dans le cadre de la routine habituelle du job, je suis pas à l'aise finalement dans toutes les discussions que je peux entendre. Je m'identifie beaucoup à des cas d'élèves, par exemple. Voilà. Où je me retrouve, moi, étant ado, collégien, lycéen, voilà, et j'entends des choses et des propos où je me dis, alors c'est une projection, d'accord, mais où je me dis finalement que ce que j'entends là, ça aurait pu être dit sur moi, à ce moment-là, quand j'étais élève. Et même si le propos se veut vis-à-vis de moi, de mes pairs, globalement positif, quand même, et de mes chefs d'établissement aussi, mais. Et même de mes responsables au niveau du rectorat. Mais en même temps, j'ai l'impression de... Je veux régler un compte, mais ce compte-là, je ne lui ai pas mis de mot encore.
Et donc, du coup, en fait, lorsque vous dites que vous fuyez les conversations avec vos collègues, c'est par peur, encore une fois, d'être finalement considéré comme plutôt cet éternel... vous vous sentez l'outsider, plus proche
ça.
Pardon ?
Non, c'est d'être considéré comme l'outsider, en fait.
L'outsider, c'est-à-dire ?
Ouais. C'est le mec qui fait la même chose, mais à côté. Et en mieux.
Ah bon, bah, donc c'est, ça n'est pas... là, pour le coup, ça n'est pas... Parce que le syndrome de l'imposteur, c'est souvent considéré comme étant la pensée qui nous mène à penser justement qu'on est, inférieur. Là, vous, c'est le contraire. Vous pensez être supérieur.
Absolument pas.
Bah alors, je n'ai pas saisi ce que vous m'avez dit. Vous m'avez dit faire mieux.
Ma pensée est de penser que je suis l'outsider, il ne fera jamais partie du serail, de toute façon, voilà, c'est trop tard maintenant, et en même temps, j'apporte un plus qui est reconnu.
Oui.
Mais mes pairs le reconnaissent comme un plus, voilà. J'apporte des plus, globalement, même pas dans ma discipline, hein. Sur d'autres pans, hein. Je travaille sur la 10, je travaille sur les THQI, je travaille sur beaucoup de choses, mais en même temps je suis comme si il fallait que je retrouve intérieurement la place qu'on n'a pas voulu me donner en tant qu'élève. Il faut qu'on me la donne en tant que prof, sauf que j'ai affaire à un mur administratif, normalement qui ne veut pas me la donner. Donc je me retrouve toujours dans cette confrontation. Que ce soit très jeune en tant qu'élève ou adulte et prof dans l'institution, face à une incompréhension de ce que je fais, comment je pense, comment je réfléchis, etc. Et c'est donc c'est une forme de rejet.
Oui.
Que je le vis comme ça. Hein. Après, c'est pas voilà, c'est quelque chose que c'est un ressenti personnel, mais en même temps, je fais tout pour combattre ce rejet-là.
Oui, mais alors j'ai du mal à déceler où vous mettez ce syndrome-là, en fait.
Parce que j'ai rien à faire là.
Pourquoi vous n'avez rien à faire là ? En quoi vous n'avez rien à faire là ? J'ai du mal à saisir. Parce que vous venez faire ces cours, vous acceptez ce qu'on vous propose, vous faites visiblement selon votre méthode, votre état d'esprit, en tout cas la projection que enfin, je me réfère à ce que vous dites. Hein, vous faites vos cours en fonction de ce que sont vos références et alors que vous ne vous sentiez pas à votre place. C'est un fait, mais est-ce qu'on vous dit que vous n'êtes pas à votre place ? Est-ce que on vous le signale ?
Non.
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 D'accord.
Et c'est là où ça me pose un problème. C'est peut-être que finalement, il faudrait peut-être qu'à un moment on vienne vers moi pour me dire non, Pierre, là, écoute, t'es bien gentil avec tes trucs et tout ça, machin, ce que tu proposes, toi, c'est super, mais t'es pas du serail, tu le seras pas, et tu resteras dans ta position d'outsider. En fait, voilà.
Mais peut-être que on n'a pas du tout envie de vous dire ça. Et c'est bien là où vous pensez des choses qui peut-être n'existent pas et qui vous renvoient justement à cette fameuse position d'outsider dont vous parlez et qui peut-être n'existe que dans votre tête, parce que j'imagine mal. Ça fait combien de temps que vous enseignez maintenant ?
Ça fait 13 ans.
Bon,
j'ai fait 3 ans de trop. Bon, moi, j'ai fait 3 ans de trop.
Mais peut-être que c'est 13 ans de trop dans votre tête, et à ce moment-là, si vous considérez que c'est 13 ans de trop et que ça ne vous satisfait pas, que ça ne vous épanouit pas. Vraiment, je vous engage à faire autre chose, à réfléchir, à faire quelque chose qui vous épanouisse. D'ailleurs, je pense que le fait que vous accumuliez plusieurs activités traduit que, de toute façon, vous avez toujours envie d'être ailleurs. En tout cas, pas là, puisque vous parlez de 13 ans de trop.
Et à partir du
moment où on parle comme ça, c'est sûr que voilà, ça traduit tout simplement que vous n'avez pas envie d'y être. Si vous n'aviez pas envie d'y être parce que on ne vous a toujours pas dit que vous n'aviez rien à faire là, mais que cette pensée-là, elle n'est que cet argument-là, il n'est présent il n'existe que dans votre monde à vous, dans votre tête à vous. Il est normal que vous ayez plutôt mal vécu les 13 ans que vous venez de passer, mais j'imagine mal l'institution justement, qui vous donne cette mission. Pensez au bout de 13 ans que vous n'avez rien à faire là. Je pense que si on avait dû vous le dire, on vous l'aurait dit depuis un bon moment. Ah ben oui, oui.
Oui, non, on est d'accord. On est d'accord, mais en même temps, c'est-à-dire que je suis dans une recherche de reconnaissance, de validation.
Oui.
Et qu'en face, finalement, je ne l'ai pas. Je l'ai tacitement, comme vous l'exprimez, en disant oui, bon, c'est...
En étant reconduit.
Ça fait longtemps qu'on l'aurait viré. Mais donc, s'il ne faisait pas l'affaire, si en plus, il ne donnait pas du bonus, et si en plus, ça, je l'entends. Mais je suis dans cette reconnaissance de validation que je n'aurai jamais. Donc, soit je continue pendant 10 ans, 20 ans encore, en me disant l'institution m'a donné la validation que je veux, ou. Me la donnera pas, et à ce moment-là, je fais autre chose, effectivement. Et
moi,
j'y pense.
Moi, je pense que dans votre cas, l'impression que vous me donnez, ça fait presque 20 minutes qu'on parle ensemble, et donc ça n'est pas assez pour que je puisse avoir un avis entier et tranché, mais plutôt une intuition vous concernant. Je pense que vous êtes... vous souffrez de ce syndrome-là, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il est teinté d'un certain ennui et que ce que vous faites ne vous satisfait pas entièrement. Ne vous fait pas vibrer. Et peut-être ce manque de reconnaissance que vous avez vécu depuis même le collège, vous me le disiez tout à l'heure, vient renforcer votre questionnement sur le fait de vous demander si vous êtes bien à cette place-là, à la bonne place, et avec une forte tendance à justement penser le contraire, que voilà, vous n'êtes pas à votre place. Mais peut-être peut-être vous attendez la validation de la part des gens auxquels vous vous confrontez. Et peut-être, je pense que vous prenez que inconsciemment, c'est un prétexte par rapport à votre envie de faire autre chose. Je pense que...
Complètement. Et je vous rejoins sur votre phrase, sur le fait de dire que je suis là sans être là. J'ai un très bon ami qui disait ça quand j'étais musicien pro du côté de Paris là-bas, qui me disait mais Mathieu, enfin Pierre, c'est un train, on peut jamais l'accrocher. On croit qu'on l'a attrapé et en fait il est déjà ailleurs quoi.
J'ai l'impression aussi que vous êtes un peu comme les requins, c'est que vous savez, on dit du requin que si il s'immobilise, il meurt. Et j'ai l'impression que vous avez tout le temps besoin d'être en mouvement.
En même temps, je suis vivant.
Oui, mais on peut être vivant.
Je suis avec qui je suis. Donc, il faut bien que je compose avec aussi. Donc, il faut bien un moment que, oui, j'ai besoin de cette vitesse-là. Mmh. Et que globalement, la vie sociale, donne pas. Donc, d'où ma multiplicité des postes et des statuts et tout ça, parce que c'est pas... Ça veut dire que je fais pas mal de boulot, ça veut dire qu'il y a un moment où je peux gérer tout ça, finalement. Et c'est pas... c'est autant positif que négatif. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'à un moment où moi, ce truc-là, l'institution d'éducation nationale, ça, je me dis, ouais, parce que j'ai pas... J'ai fait ce que j'y avais à faire, certainement. Voilà. J'ai peut-être soldé les comptes avec un ressentiment ancien par rapport à l'institution. Mais finalement, ce ressentiment, il est toujours là et je ne l'ai pas guéri, quelque part. et je vais quitter l'institution, parce que de toute façon, je vais le faire. Voilà. Je vais vers autre chose maintenant. Mais je n'aurais pas résolu ça, finalement. Alors après, c'est long, hein, c'est de la psychanalyse, hein, mais est-ce qu'on résout quelque chose dans un boulot, et comment est-ce qu'on le résout, et est-ce que ce boulot fait juste partie d'un panel global qui comporte beaucoup de, pour moi, de points noirs plus que positifs, et comment je me débrouille avec ça. Mais je vais quitter l'éducation nationale, ouais, c'est sûr.
Moi, je pense que, en tout cas, c'est pour conclure, c'est vraiment la meilleure chose que vous pourriez faire. Parce que, voilà, encore une fois, je vous le répète, quand on vous écoute et que vous parlez de 13 ans de trop, je pense réellement que c'est un monde qui ne vous correspond pas vraiment. Au
Absolument
début.
pas. Et qui m'a jamais correspondu, d'ailleurs.
Ouais, mais vous avez dû y arriver d'ailleurs. Je pense que vous avez dû y arriver par défi presque intellectuel ou en tout cas
Ouais.
sociétal, comme vous dites,
Ouais,
vraiment vu
exactement.
en ayant un poste dans la société, c'est-à-dire vraiment voilà, une situation remarquable dans la société.
Oui, mais ce poste-là, j'ai le même à côté.
Oui, mais
Et
vous
ce
l'avez.
poste-là, je l'ai encore le même à côté.
Oui, mais vous avez
Donc, c'est
besoin de
pas.
vous démultiplier. Et je pense qu'il faut que vous mettiez un cadre aujourd'hui dans votre vie, que vous resserriez les choses et que vous vous concentriez justement sur les activités où vous semblez exceller dans chacune de ces activités. Mais concentrez-vous et mettez un cadre. Alors mettre un cadre, c'est-à-dire remettre un petit peu, concentrer son énergie sur les activités qui vous font l'activité qui vous fait le plus vibrer. Parce que moi, j'ai longtemps été comme vous à faire plusieurs choses, voyez. Et finalement, je me suis aperçu, même si je déployais beaucoup d'énergie pour chacune de ces choses que je faisais, je n'ai jamais été aussi performant que lorsque je me suis concentré vraiment sur une activité
Un truc, ouais.
à 100%. Parce que
Ouais.
à vouloir faire beaucoup de choses, on les fait. Alors pas à moitié, parce que les gens, vous voyez, les gens vous disent toujours, ah mais si tu fais plusieurs choses, tu ne les fais qu'à moitié.
Oui,
Non,
tu fais,
vous
oui,
pouvez les faire
non.
à 70%, vous pouvez les faire à 80%, mais vous ne les faites jamais aussi bien que quand vous vous concentrez uniquement dessus et que vous y accordez toute votre attention et votre énergie. Donc, je vous encourage vraiment à gamberger là-dessus, à essayer de faire ça et de me tenir au courant. Si vous le voulez, hein, dans quelques mois peut-être pour qu'on reparle de tout ça. OK?
Complètement.
Bah écoutez, je vous remercie beaucoup
Merci beaucoup, Olivier.
d'avoir participé à cette libre antenne et puis bon courage et de la force pour faire
Oui,
ce
à tous.
choix. OK?
Oui.
Merci beaucoup, Pierre.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.